Sébastien, grosse semaine d'événements, de conférences à Paris. Faut croire que quand vous quittez Lyon, vous en profitez, hein? Donc, j'aimerais ça, on casse la glace, j'aimerais savoir vos impressions sur le All for Content, qui est un salon spécialisé sur le contenu de marque. Vous, ça fait partie de votre travail, d'aider, les marques, les entreprises, les organisations à développer des histoires autour de leur contenu. C'est quoi l'impression que vous avez eue de cette édition?
Bah, c'est 2 jours très intenses et fatigants et surtout beaucoup de rencontres finalement autour d'un point commun qui était ce contenu-là, qui était finalement aussi l'histoire en fait. Quel que soit l'outil qu'on va utiliser, ce qui est toujours important de base, c'est de se dire voilà, quelle est la bonne histoire, comment je vais la raconter. C'était 2 jours qui étaient intenses et qui étaient riches. Il y avait bon, bah, voilà, beaucoup d'exposants qui présentaient des solutions, des méthodes de travail. Il y avait aussi pas mal d'ateliers. J'ai eu l'occasion d'en organiser un sur l'utilisation de la vidéo mobile, le smartphone, pour produire du contenu au service bah, des marques et des médias. Il y avait aussi des conférences aussi plus inspirantes autour. Alors voilà, il y avait des choses sur le métavers. Hein, clairement, on voit bien que ces contenus immersifs vont nous donner la possibilité de faire preuve d'une créativité énorme et d'imagination. À grande échelle pour raconter des histoires et toujours parler de nos marques, nos entreprises ou de nos médias.
Je reviens sur ce que vous disiez. Vous parliez de raconter une histoire à partir d'un téléphone mobile. Avez-vous l'impression que les marques, les entreprises ont encore besoin de se faire convaincre qu'on peut utiliser quelque chose d'aussi petit qu'un téléphone pour raconter une histoire et que le message va quand même passer?
Alors, il faut garder à l'idée que ça reste des outils. Donc, du coup, ça ne remplacera pas des grosses caméras, un gros studio de production. Mais dans certains cas, le smartphone, avec un petit peu d'équipement, avec de la pratique, va nous permettre d'être peut-être plus mobile, plus réactif, d'être moins intrusif dans la vie de la personne qu'on va aller interviewer. Je prends souvent l'exemple d'une entreprise qui serait une entreprise de production industrielle qui voudrait aller produire du contenu. Quand on va aller à la rencontre des techniciens, des ouvriers, des équipes qui elles, n'ont pas l'habitude de parler devant une caméra, ce que j'appelle la distance de l'objectif, la grosse caméra qui a tendance un peu à les freiner dans leur manière de parler, bah là, on va pas la voir. Pourquoi? Parce que tout le monde a un smartphone quasiment dans la poche, tout le monde filme avec. Oui, ces photos de, enfin, ces vidéos de vacances, ces enfants, mais on a l'habitude de cet outil, donc on a déjà une barrière qui est moins importante quand on va aller rencontrer les gens. Et puis aujourd'hui, alors moi, c'est ce que je disais dans mon atelier, je suis parti vraiment là, j'ai raconté la folle histoire de la vidéo mobile, de ces premières expérimentations avec des Nokia 80, N97, 87 avant, où c'était les premiers téléphones qui permettaient de filmer et d'envoyer des vidéos aux rédactions. C'était un journaliste en Grande-Bretagne qui avait fait ça. Il avait filmé des manifestations et la vidéo a été diffusée sur les sites internet de mémoire. Ça devait être de la BBC et aussi à l'antenne. Et pourquoi? Parce que c'était intéressant d'avoir cette histoire à raconter à cet instant. Et la qualité à l'époque, faut rester clair, c'était très pixelisé. Le son était quasi inexistant.
Et
Et tout
d'ailleurs,
a évolué.
ouais, puis d'ailleurs, à cette époque-là, juste pour l'anecdote, je me souviens d'avoir couvert cette histoire-là. Et l'année d'après, tous les journalistes de la BBC avaient un N95 dans la poche parce que souvent, ils arrivaient avant leur caméraman sur les lieux. Alors, ils étaient déjà capables de prendre des images avec leur téléphone. Écoutez, c'est bien avant leur iPhone et d'envoyer ça à la rédaction en attendant que la vraie équipe débarque.
Exactement. C'est clairement de la réactivité. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité de filmer une interview, quelques plans de coupe, de faire un montage simple. Aujourd'hui, on a toutes les applications dans le téléphone, gratuites ou payantes. On parle souvent de iMovie qui permet peut-être simplement de prendre une interview et quelques éléments et de les envoyer très rapidement à la rédaction pour que ce soit ensuite exploité par l'antenne, par le broadcast, par les sites internet. Et pourquoi? Ben voilà, c'est un outil qui est au service de l'histoire. On a de la fluidité, de la rapidité, on est en mesure d'être réactif finalement.
Et là, je parle aux professionnels qui essaient d'aider les entreprises à se trouver et à bien utiliser les réseaux sociaux, l'Internet en général. Est-ce que ça vous surprend qu'en 2022, on soit encore obligé d'expliquer ce que c'est du storytelling, sachant que raconter une histoire, on a tout le temps fait ça. Les hommes des cavernes avec les graffitis sur les murs faisaient ça. Mais on a l'impression que les gens aujourd'hui en communication, même les dirigeants des entreprises, sont gelés devant l'Internet, les réseaux sociaux. Et il y a le principe de raconter une histoire comme leurs grands-parents leur faisaient quand ils étaient tout petits. La connexion ne se fait pas, là.
C'est un peu ça, et finalement, c'est dans tous les échanges que j'ai eus où on a appuyé là ces derniers jours sur le côté storytelling, on a trop souvent tendance à se dire je veux faire du podcast. Ok, bah la question c'est qu'est-ce que je veux raconter à ce moment-là. Est-ce que le podcast est un bon support pour raconter cette histoire? Parfois oui, parfois non. Je veux faire de la VR. Non, parfois faut pas faire de VR. Voilà, faut vraiment faire des choix et partir du postulat. Quel est mon message? Quelle est ma cible et quelle histoire je vais lui raconter? Comment je vais l'embarquer dans ma marque? Comment je vais l'embarquer dans mon univers? Si je suis créateur de podcast, comment je vais faire en sorte de les convaincre d'écouter d'écouter mon contenu? Trop souvent on part de ça. On imagine des dispositifs énormes, bourrés de technologies, et on oublie juste de raconter quelque chose. Et c'est pour ça que parfois, on voit passer des lives sur des réseaux sociaux, type LinkedIn, d'entreprises, qui sont très peu regardées. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, on ne sait pas raconter, on ne sait pas embarquer dès le départ l'audience, en fait. On parle souvent du stop-pouce, hein, les vidéos sont regardées peut-être des millions de fois en fonction de notre communauté, mais très souvent, c'est quelques secondes. Donc, imaginez, vous avez mis le paquet dans une vidéo, léchée, tournée en studio avec tout un tas d'infographies. À votre vidéo, regardez 6 secondes, quoi. Donc, vous avez raté votre histoire. Vous ne les avez pas captées, vous ne les avez pas intégrées dans votre narration. Donc, moi, je pense que trop souvent, on oublie cette histoire. C'est parce que, on se jette dans l'outil, mais pas dans ce qu'on veut raconter.
Et parlant de se lancer et peut-être se perdre sur des plateformes, j'imagine que dans ce salon du contenu de marque, il y a une part belle qui a été faite au métavers.
Alors oui, il y avait plusieurs conférences sur le métavers. Il y avait des acteurs qui parlaient de réalité augmentée, de réalité virtuelle, évidemment. C'est pareil, n'allons pas tous dans le métavers. Qu'est-ce qu'on va aller faire dans ces univers virtuels? Quelle va être la valeur ajoutée? Quelle histoire on va raconter? Enfin, je me répète systématiquement. Hein, quelle histoire on va raconter? Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on va consommer quelque chose avec un casque qu'on va être plus impactant que si on imagine un bon podcast qui va nous raconter une belle aventure avec un beau design sonore, avec des bruitages stylés, avec de la recherche. Donc oui, le métavers, clairement, ça va être un nouveau moyen de raconter des choses. C'est le sujet de l'enregistrement que j'ai fait tout à l'heure. Comme vous le disiez, je profite d'être à Paris pour optimiser mon temps et j'ai rencontré quelqu'un qui est spécialisé dans les contenus immersifs justement pour avoir cette discussion-là. Quelle histoire on va raconter dans ces univers virtuels, dans le métavers? Comment on va le faire? Est-ce que c'est encore un peu tôt? Est-ce qu'il faut investir du temps dedans? Voilà. Mais c'est un sujet qui reste passionnant.
Et on pourra l'entendre à quel moment, cet entretien?
Bon, là, je dirais d'ici peut-être une quinzaine de jours, par là, en fonction en fonction de mon rythme de production, n'est-ce pas? mais voilà. Donc, il y a énormément de choses à raconter. Il faut choisir son histoire et choisir son support après, hein. Alors, ce qui était aussi dit là, si je fais un peu de teaser sur l'échange, un peu en exclusivité, c'est qu'aujourd'hui, on connaît la grammaire de l'image. On sait comment filmer avec une caméra, on connaît les valeurs de plan, tout ça. Bah, tout reste à inventer finalement dans ces univers virtuels. On prenait l'exemple de ce concert de Travis Scott dans Fortnite, que tout le monde a déjà entendu parler, qui est un exemple de ce qu'est un concert en réalité virtuelle. On peut se permettre là d'avoir un bonhomme, un avatar qui est immense, qui fait 150-200 mètres, avec le public qui est dessous, qui vit la scène différemment. Et ben là, voilà, on a une bonne histoire, on a une narration qui est intéressante à expérimenter.
Avant qu'on se laisse, je veux absolument, Sébastien, faire un clin d'œil à quelqu'un qui fait dans le contenu sur Twitter. Vous l'avez accueilli dans votre kiosque dans le cadre du salon et c'était Emmanuel Leneuf qui, jour après jour, est présente avec son flash tweet. Vous l'avez accueilli à votre kiosque. Ça, c'est quelqu'un qui a appris très rapidement avec Twitter à adapter son contenu et à devenir un média sur Twitter.
Exactement. Alors, sur le salon, on a travaillé ensemble vraiment sur l'intégralité du stand. Donc, c'était vraiment, on a mené ça. On s'est dit comment on va embarquer les gens dans notre histoire, notre aventure. Donc, on a vécu le salon tous les deux. Emmanuel, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est emparée de l'outil Twitter, hein, qui reste un outil pour raconter une histoire. C'est son flash tweet qu'elle fait tous les jours. C'est 10 innovations qui parlent de transformation digitale. Elle évolue aussi. On a eu la discussion, en fait, ce qui fait la force, du flash tweet et de tout un tas d'autres créateurs. Et ce qui fait la force des contenus digitaux, c'est qu'on peut innover en permanence, trouver des nouveaux modules à insérer, des nouvelles choses à raconter, en s'appuyant sur les évolutions parfois des plateformes, mais sur les choses qu'on va avoir découvertes par ailleurs. On va faire de l'innovation incrémentale en s'appuyant sur des choses qu'on aura vues peut-être dans d'autres domaines d'activité. Le bon exemple, en réalité, c'est ce qu'on réalise ensemble. En fait, on s'est rencontrés sur le salon Virtuality avec Emmanuel et on a eu une discussion passionnante autour de la social audio et des Twitter Spaces, qui aujourd'hui sont des sujets qui, pour moi, ne sont pas exploités par les marques. La social audio, c'est réellement un changement de paradigme en termes d'interaction. L'exemple, c'est j'écoute la radio, sauf qu'à tout moment, je peux toquer à la porte du studio, ouvrir la porte et me poser à la table de conférence et discuter avec les participants, le présentateur, l'expert et tout ça. Donc, vous écoutez France Info ou Radio-Canada, imaginez aller toquer à la porte comme ça et parler avec vos présentateurs fétiches. Ça, c'est réalisable avec la social audio. Et donc, une des dernières innovations de Flash Tweet, c'est le Flash Tweet Spaces qu'on fait autour du thème du métavers aujourd'hui. Et on fait comme ça des épisodes avec des intervenants qui, eux, sont experts. On arrive avec un certain nombre de questions et l'audience peut venir poser des questions à ces experts. On avait des questions notamment hier sur cette expérimentation immersive. C'est une société qui a recréé Notre-Dame de Paris et on est en mesure de visiter l'évolution de Notre-Dame de Paris. Ça, probablement, vous mettrez les liens en commentaire parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Et du coup, on a quelqu'un dans l'audience qui est venu, qui a posé des questions très pragmatiques et techniques sur le dispositif. Donc ça permet ça, de créer du lien, d'échange. La social audio, c'est génial, quoi.
Sébastien Meunier, toujours aussi généreux de vos propos. Je rappelle que vous êtes de chez Media Lab Factory à Lyon. Et puis, nous, on vous rejoignait à Paris. Merci beaucoup pour la recension de l'événement et puis ce partage de réflexions sur le contenu pour les marques. Et je vous dis à une prochaine.
Merci beaucoup, Bruno, pour l'invitation. À bientôt.
Au revoir.